Cette lecture de l'évangile de Jean que nous filons au fil des chapitres cette année. Et ce mois-ci, cette séance est consacrée à cet épisode du chapitre 9 où Jésus est placé devant un aveugle de naissance. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence par le lire intégralement et peut-être de manière un peu trop scolaire à votre goût, mais il faut reprendre de bonnes habitudes en début d'année. Je vais vous conseiller, quand vous allez entendre ce texte, de rechercher les champs sémantiques. Ah, ça vous rappelle de bons souvenirs de l'école, les champs sémantiques. Disons que, essayez de voir quelles sont les familles de mots autour desquels s'organise ce texte. Sémantique, c'est le sens. Quels sont les mots-clés, en quelque sorte, de ce texte? Essayez de les entendre, de les repérer. C'est pour que vous ayez une lecture attentive. Je ne pense pas que vous veniez ici tout à fait en dilettante, mais sait-on jamais. Pour que ce soit facile pour tout le monde, je vais entreprendre la lecture du texte. Ceux qui n'ont pas le texte biblique, je le distribuerai ensuite, mais je l'ai préparé sur une feuille en l'organisant de telle manière que ça vous montre les petites parties, et je ne voudrais pas vous offrir cela tout cru, tout cuit, tout préparé, prédigéré. Donc je vous ferai aussi travailler un peu sur les différentes parties du texte à l'oreille. Donc vous pouvez, si vous voulez faire ça de façon légère, penser aux champs sémantiques. Si vous voulez faire ça de façon un peu plus péchue, vous pensez aussi aux différentes parties de ce texte. Quels sont, en quelque sorte, les différents actes de ce texte? Pensez à une pièce de théâtre. Quels seraient les différents actes ou les différentes scènes d'un acte? Après tout, c'est... Oui. Il y a plusieurs actes. Bon. Je vais vous le lire tranquillement. Donc, évangile selon Jean, donc le quatrième évangile dans le Nouveau Testament. Et j'entame au verset 1. Jésus vit... Donc le verbe voir au passé simple. Jésus vit en passant... un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit par « envoyé ». Et il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. » Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit « Va te laver à Siloé ». J'y suis allé, je me suis lavé, et je recouvrai la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui? Qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent, donc ce sont les Juifs qui demandent aux parents, « Est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ? Ses parents répondirent : Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs s'étaient mis d'accord, si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il est assez âgé, interrogez-le. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est pécheur. » Il répondit, « S'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Et ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. » Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous enseignes. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, et il l'adora. » Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ses paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. » Aussi, votre péché demeure. » Voilà pour la lecture de tout ce chapitre 9. Alors, en entendant cela, est-ce qu'il y a des mots-clés, en quelque sorte, qui ressortent, ou des notions qui ressortent ? Voir. Péché. Alors, aveugle, ça va être avec voir. Voir, ne pas voir, c'est dans le même champ sémantique, en fait. Donc, par rapport à voir, il y a aveugle 12 fois, ouvrir les yeux 7 fois, voir... avec le verbe blepein qui signifie scruter, 9 fois, recouvrer la vue, 4 fois, recouvrer la vue, c'est le verbe blepein scruter avec le préfixe ana, donc c'est rescruter ou voir à nouveau, oui. Donc 4 fois, contempler, c'est un autre verbe, en l'occurrence de voir, orao, 2 fois, et puis théoreo qui est un peu... là aussi, scruté, une fois. Donc, le vocabulaire autour du verbe voir, ou le fait de ne pas voir, et puis il y a effectivement le mot aveugle, tuflos. Le péché, c'est pécheur, le péché au sens de nom commun, et puis le verbe pécher. Donc, toutes ces occurrences, on les retrouve 9 fois. Et puis, il y a encore un... Il y a encore un champ sémantique tout à fait intéressant. D'ailleurs, en français, c'est pas très loin de voir. On n'en parle pas trop. Ouais. Mais quelque chose qui revient de façon assez récurrente quand même. Vous voyez, là, on est sur des cycles de 9 occurrences pour le péché. Et puis, pour tout ce qui est autour de voir, on en est à une bonne vingtaine. Naver ? Laver. Oui, c'est vrai qu'il y a ce récit, mais il est en fait trois... Oui, non, c'est vrai, on a le rituel du lavage. Mais il y en a un qui est... Enfin, il y a un verbe qui revient 11 fois, qui mérite donc d'être distingué. Je vous donne l'indice, c'est pas très loin de voir. C'est pas loin, ouais. Là, au niveau sémantique, mais au niveau du signe, c'était pas loin de voir. Savoir. Oida. Savoir 11 fois. Et donc, vous voyez, repérer ces champs sémantiques, c'est se dire qu'on a là les points les plus importants et que ça va s'articuler autour de ces trois-là. Et effectivement, vous avez entendu le texte, donc on peut commencer à dire un peu ce que l'on comprend de ce texte. Il y a, dès le départ, une articulation entre le fait de ne pas voir et le péché, comme si le fait de ne pas voir, c'était un péché. Et il va y avoir un petit déplacement, et en fait, Jésus, manifestement, va nous faire comprendre que le savoir relatif à la possibilité de voir est ce qui détermine le péché. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui pensent voir et qui disent « nous savons que nous voyons » et ceux-là sont dans le péché, alors que ceux qui disent « nous savons que nous ne voyons pas », ceux-là ne sont pas dans le péché. Vous voyez, pour le dire autrement, ceux qui vont faire preuve d'humilité par rapport au savoir ne seront pas dans le péché, alors que ceux qui feront preuve peut-être de prétention ou d'orgueil par rapport au savoir, eux, on va dire d'eux qu'ils demeurent dans le péché. Bon, on va voir comment ça s'affine dans le texte. Un texte assez joliment construit en 7 séquences. Est-ce que vous pourriez me dire comment est-ce qu'on pourrait imaginer quelles sont ces 7 séquences ? 7 séquences, je vous donne un petit tuyau, elles sont concentriques. C'est-à-dire qu'il y en a une au milieu et après il y a une sorte de symétrie. Si vous avez une petite intuition... Oui, ça commence par Jésus et l'aveugle, ça finit par Jésus et l'aveugle. Est-ce qu'on peut se dire quelles sont les deux autres étapes ? Effectivement, ça, en fait, ce sont les personnages en présence qui vont déterminer les séquences.
Les voisins et les parisiens.
Voilà, alors il y a...
Les parents.
Oui, il y a les parents avec les pharisiens. Est-ce que ça, c'est une séquence double ou pas ? C'est le centre, en fait. Le centre, c'est ça. C'est les juifs et les parents. Je dis juifs parce que c'est comme ça que Jésus en parle. Il n'y a pas de côté péjoratif dans mon esprit. Hein. C'est les Yudayoy. Hein. Voilà. Soyons clairs. Alors, partons du centre. Donc, les parents avec les juifs. Si on prend le petit cercle concentrique juste autour, on a qui et qui ? On a les pharisiens, enfin disons qu'on a cette population pharisienne, tantôt appelée pharisien, tantôt juif, et avec l'aveugle. Ensuite, on ouvre un peu plus, et c'est là qu'on a Jésus et l'aveugle, et on ouvre encore plus, et on a Jésus et les pharisiens. Et maintenant, je vous passe le texte, comme ça vous retrouvez ça. Vous avez ça sous les yeux. Donc je vous ai présenté le texte justement sous la forme de cette parabole. Donc le texte va passer, on commence par le lire en haut à gauche de la feuille. Je vous ai fait à chaque fois une case par séquence. Donc ça descend, on a la partie centrale tout en bas, et après ça remonte. Hein. Comme il y a les numéros, de toute façon vous allez vous repérer dans la manière que j'ai eue de vous présenter cela. Alors... ce que je propose, c'est qu'on prenne ce texte justement séquence par séquence et que nous prenions comme cela le temps de démonter ce texte et de prendre le temps pour ce texte-là de démonter le mécanisme de ce qu'on appelle le miracle. La fois dernière, je t'ai passé un peu rapidement sur le miracle du pain et sur le miracle de la marche sur l'eau. En vous disant que ça relevait de la métaphore. Vous, comme vous êtes gentil, vous m'avez cru sur parole, c'est mignon, c'est chouette. Là, on va essayer de voir un peu plus ce qui nous autorise à dire que le miracle relève de la métaphore. Pour le dire peut-être d'un point de vue plus scientifique, que le miracle s'inscrit dans les lois de la physique et qu'il n'y aurait pas de loi de la physique qui serait transgressée ici. C'est un défi à relever. Mais nous allons faire ça ensemble. Bien entendu, je vous dis ça comme ça, mais si vous considérez que ça dépasse le cadre de la physique, on en discute. De toute façon, on n'est pas là pour voter une motion à la fin, donc on a le droit de présenter des accords. Tout le monde a un texte sous les yeux ? Parfait. Alors, on va donc prendre la case en haut à gauche, les versets 1 à 5. Donc, c'est la première séquence avec Jésus et l'entourage, Jésus et les disciples. Donc, c'est là que nous avons le préalable théologique, la question qui se pose, la question du jour. Un aveugle de naissance. Quelle est la logique des disciples, si on devait la qualifier, cette logique des disciples ? Punition, il y a un terme plus technique encore ? Oui, châtiment, punition, et le terme tout à fait technique, pour votre catéchèse personnelle, c'est comme les amis de Job, c'est la logique de la rétribution. Un prêté pour un rendu. Dans la logique des amis de Job, si Job est dans cette situation, c'est qu'il le mérite. Donc, comme vous dites, il est puni, mais on pourrait dire qu'il est payé pour ce qu'il a fait. Et ici, la question qui est posée donc à Rabbi Yoshua, c'est pas est-ce qu'il a péché, enfin est-ce qu'il y a du péché. C'est une évidence pour eux, il y a un lien entre l'aveuglement et le péché. Parce qu'il y a un lien entre le péché et la maladie. Et là, l'aveuglement est considéré comme une maladie. Donc la question n'est pas de savoir s'il y a eu péché ou pas, la question est de savoir qui a péché. Parce que pour eux, c'est une évidence qu'il y a eu faute. La difficulté, c'est que cet homme est né aveugle. Donc, s'il est né aveugle, de deux choses l'une, ou il paye pour ses parents, ou c'est que, in utero, il a fait quelque chose de désagréable. Mais sachez que c'est quand même une hypothèse avancée par certains rabbins. Pourquoi ? Parce que dans le livre d'Ézéchiel, on neutralise l'hypothèse selon laquelle les enfants paieraient pour la faute des parents. Vous savez, c'est cette très belle phrase. Il y a une maxime qui dit « Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont des dents agacées » et Ézéchiel dit « Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez être la pire des crapules, votre enfant pourra être un saint. Et vous pouvez avoir été magnifique de générosité, il se pourrait que votre enfant soit lapidé. » Donc, le livre d'Ézéchiel engage déjà cette idée de responsabilité individuelle et de faute qui ne se reporte pas de la génération des parents sur celle des enfants. Ce qui, soit dit en passant, neutralise déjà au temps d'Ézéchiel la question du péché originel. Dans la logique de l'Ancien Testament, la question du péché originel, c'est-à-dire d'une transmission de la faute, c'est hors catégorie, en fait. Vous savez, c'est Augustin qui va développer ça, pour les raisons qui sont les siennes.
Mais je voulais demander, comment est-ce qu'on peut dire qu'un homme voit Jésus, un homme aveugle de naissance, comment est-ce qu'il peut être vu aveugle de naissance ?
Comment est-ce qu'on sait qu'il est...
Oui, ah. Là, on ne le dit pas, mais on le sait parce que c'est comme ça.
Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est comment s'écrit un texte. Oui. Un texte s'écrit a posteriori, après coup. Et donc, quand le rédacteur commence à écrire le premier verset, il est déjà au courant des versets 18 à 23. Le moment où les parents disent « Effectivement, il est aveugle de naissance. » Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une phrase rédactionnelle. C'est pour mettre le lecteur en situation de comprendre l'enjeu de la question. Parce qu'une chose est de traiter un aveugle de naissance, une autre est de traiter quelqu'un qui a eu une perte de la vue, peut-être suite à un choc psychologique ou accident ou autre.
C'est un péché.
Et ça peut être un péché ou ça peut être autre chose. Au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, on a eu beaucoup de cas d'enfants qui perdaient la vue parce que c'était leur façon de se protéger pour arrêter de voir l'horreur. Donc, oui, bien sûr.
Comment on fait pour ne pas neutraliser le péché originel par Ézéchiel ?
Non, Ézéchiel neutralise le péché originel. Alors, le péché originel est transmis sur le papier, mais pas dans la réalité. C'est-à-dire que la logique du péché originel, la doctrine du péché originel, telle que la développe Augustin, consiste effectivement à dire, par la faute du premier homme, enfin la faute du premier homme se transmet irrésistiblement de génération en génération. Mais ça, c'est une idée reçue. C'est pas une idée qui apparaîtrait, par exemple, dans le livre de la Genèse. Dans le récit qui suit l'épisode d'Adam et Ève, il y a effectivement des horreurs qui se passent, mais ce n'est pas mis en relation avec le pique-nique dans le Jardin d'Éden. À un moment donné, il y a l'apôtre Paul qui, lui aussi, va neutraliser la question du péché originel en disant « Bon, vous voulez qu'il y ait un péché originel ? Soit, à supposer qu'il y ait un péché originel, ça signifie que le péché est entré par un homme. » Bon, ce qu'on peut au moins convenir, c'est qu'il en est sorti par un homme aussi, Jésus-Christ. Donc au pire, si à un moment donné, il y a eu du péché originel, avec Jésus, c'est fini. Donc voilà, au moins c'est une façon de le neutraliser pour nous aujourd'hui. Et Ézéchiel le fait au moment où le peuple est en exil et se pose la question, mais comment on en est arrivé là ? De quoi sommes-nous coupables pour que le temple de Jérusalem soit détruit et que nous soyons déportés sur les bords du fleuve Kébar. Et donc la question du péché originel, ça peut être une réponse. Et en fait, Ézéchiel dit non, à chaque génération, sa responsabilité. Donc, la réponse de Jésus, vous la prenez comment, vous ? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est une phrase assez ambiguë, délicate, et j'aimerais bien vous entendre un peu, vous mouiller un peu sur cette phrase. Osons.
Il savait déjà ce qu'il allait faire.
Il, c'est qui ?
Jésus.
Jésus savait déjà ce qu'il allait faire.
Oui.
Au moment.
D'abord, la veuve de naissance.
Exact. Jésus ne répond pas à une sollicitation, il répond à une question des disciples. Et à aucun moment l'aveugle ne va lui demander d'être guéri. D'ailleurs, on le saura plus tard, mais pourquoi est-ce que l'aveugle ne demande pas à Jésus de le guérir ?
Il ne le connaît pas.
Eh bien, c'est ça. Et on le verra plus tard, quand il va croiser à nouveau Jésus, il ne saura pas que c'est lui, en fait, qui l'a guéri. Soit dit en passant, ça signifie quoi ? Ça signifie que la foi n'est pas si nécessaire que ça, des fois. Que des fois, on est sauvé malgré soi. Vous voyez, souvent, on entend « ta foi t'a sauvé ». Bah, ici, la foi ne l'a pas sauvé, dans une certaine mesure. Il y a une action déterminante qui l'emporte sur ce que l'homme est capable d'accueillir ou pas.
Ouais.
On va voir. Non, c'est vrai que le terme « sauvé » n'est pas utilisé. Mais il n'empêche qu'il est guéri, même si le terme n'est pas utilisé non plus. En tout cas, il se passe quelque chose pour lui qui, dans d'autres circonstances, serait rapporté à la foi. Mais vous avez raison de dire que le terme « sauvé » n'étant pas employé, il n'est peut-être pas très astucieux de notre part de l'utiliser. Mais j'y verrai là volontiers, dans le fait de recouvrer la vue, le signe d'un salut. On verra ça un peu dans la suite. Mais là, je vous esquivais la superbe question. Quand même, Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Disons la phrase telle qu'elle est, il est aveugle de naissance afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Au sens littéral du terme, ça veut dire quoi, cette histoire ? Pour montrer la puissance de Dieu, Mais dans un lien de cause à effet, ça signifie quoi, si on remonte un peu comme ça par inférence ?
Dieu l'a rendu aveugle justement pour montrer sa puissance, ce qui est insupportable.
Ben ouais, ouais. Enfin, une réaction peut-être de dire que c'est insupportable, réaction que je partage au demeurant. Pour d'autres, ça peut être considéré comme tout à fait normal dans l'ordre de la pédagogie de Dieu. Du coup, admettons que ce ne soit pas scandaleux, que ça ne nous hérisse pas le... Oui.
Moi, j'ai une idée. On sort de la logique de rétribution pour être dans la logique de Dieu.
Exactement. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il nous met face à notre propre logique. C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir dans cette histoire. Parce qu'on a une phrase délibérément ambiguë, et en fait, elle nous fait causer. Et elle nous fait causer sur ce qu'il y a en nous. Et la suite du texte va être le travail de Jésus sur nous-mêmes. Mais dans un premier temps, soit on considère que c'est scandaleux et le texte qui suit nous aidera à voir comment nous-mêmes nous pouvons être acteurs pour les aveugles que nous allons rencontrer. Il faudra qu'on se prononce un peu sur ce que signifie être aveugle. Soit on trouve que c'est normal, et dans ce cas-là, on va être avec les pharisiens, et Jésus va nous travailler sur notre aveuglement. C'est-à-dire que si on considère que c'est normal, que c'est une bonne pédagogie de la part de Dieu, on va être dans la catégorie, on pense bien voir, et en fait, on est les aveugles. Mais Jésus va nous rendre aveugles de façon à pouvoir nous faire recouvrer la vue. J'anticipe un peu sur la suite du texte.
Il y a une opposition entre le hasard d'une rencontre et la proclamation de Jésus.
Oui. Alors effectivement, il y a une rencontre qui n'a pas été organisée. Donc vous appelez ça le hasard. Bon, c'est pas évident que le hasard soit vraiment rencontrable, mais enfin, les mathématiciens disent qu'eux n'ont jamais rencontré le hasard. Bon, c'est en suspens. En tous les cas, ce que pourrait dans votre sens, Jésus fait une rencontre qu'il n'a pas sollicitée, qui n'a pas été sollicitée, et il en fait une occasion pour témoigner de quelque chose. Et c'est là que vous avez raison, on va sortir de la logique de rétribution, on va être dans une logique du don. C'est qu'en fait, nous, on est dans... C'est une logique de lien entre la cause et l'effet. Et les disciples sont dans cette logique-là. La faute à qui ? Et dès qu'il arrive quelque chose, notre question c'est la faute à qui ? Qui va-t-on punir ? Qui est le responsable qui va en prendre plein la figure ? La logique de Jésus, elle est bien différente. C'est face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? La logique de Jésus, elle n'est pas là pour stigmatiser. Elle est là pour soigner et guérir. Donc il n'est pas dans une logique de la cause, il est plutôt dans une logique de la finalité. Dans une certaine mesure, l'éthique, c'est ça. L'éthique, au sens de Paul Ricoeur, c'est une perspective dans des institutions justes, ajoute-t-il. Mais l'éthique se distingue de la morale en ce qu'elle ne cherche pas nécessairement une fidélité par rapport à hier. Elle cherche plutôt une justesse ou une justice par rapport à l'avenir. Et c'est de cela dont Jésus témoigne. Qu'allons-nous faire pour cet homme ? Et donc, c'est pour ça que cette phrase est un petit peu ambiguë, mais c'est parce qu'elle nous permet de nous révéler tels que nous sommes, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Toute situation est une occasion pour Dieu de se manifester. Il n'y a pas... En fait, il n'y a rien d'odieux. Odieux au sens où Dieu ne pourrait être présent. Il n'y a pas de situation fichue, définitivement fichue. Cette situation est une situation sur laquelle on peut intervenir. Il y a encore de la place pour intervenir. Je peux savoir ? Alors, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça vous rappelle le prologue. Le prologue, vous avez dit, c'était un peu comme un index qui allait nous ouvrir sur la plupart des textes de l'évangile de Jean. Et bien là, on est sur... Effectivement, quelques-uns parmi vous ont parlé de la lumière comme champ sémantique possible, parce qu'en fait... La lumière a un rapport avec le fait de voir. C'est pour ça que j'ai allumé les autres lampes, c'est qu'on y voit mieux. Et quand on y voit mieux, on vit mieux. Sinon, c'est le mythe de la caverne de Platon, et vous savez que ce n'est pas idéal comme type de vie. Donc, évidemment, si on a matière à se scandaliser d'une idée selon laquelle Dieu aurait fait en sorte que cet homme naisse aveugle de façon à montrer qu'il est vraiment extrêmement efficace, ça signifierait qu'il a objectivé l'homme. C'est-à-dire qu'il en a fait un objet de foire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a de bonnes raisons, parce que c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas utiliser les autres pour se glorifier soi. L'amour, c'est pas se servir des autres. C'est servir les autres. Mais là, sinon, ça aurait été Jésus qui se sert de nous pour faire le mariole.
Mais est-ce qu'il a pas dit en passant au départ ?
Oui, Jésus passe. C'est pour ça qu'on parlait de cette question de hasard. Il profite d'une situation. Il est extrêmement disponible. Ce qui fait la qualité, ce qui fait que Jésus est Christ, c'est qu'il est extrêmement disponible au présent. Il rencontre une femme syro-phénicienne. Comme ça, d'entrée de jeu, lui dit « Mêle-toi de si tu ne te regardes pas, tu fais partie du peuple élu, je ne m'occupe pas de toi, reste avec les chiens. » Et puis, lui dit « Mais même les chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table du maître. » Là, Jésus réfléchit, mais nous, on serait resté campés sur nos positions. Ben, Jésus, lui, il bouge. Et voilà, c'est cette disponibilité au présent qui en fait un Christ. Oui.
Je ne comprends pas très bien le sens de la réflexion de Jésus. La nuit vient, personne ne peut travailler. Ça
c'est... Eh bien, c'est que, je vous disais, si on n'a pas une source de lumière, on travaille moins bien. Notre vie n'est que l'ombre d'elle-même. Alors on va voir que cette lumière, elle n'est pas la lumière EDF. C'est ce qui met nos actes en perspective, et nos paroles aussi. C'est-à-dire que c'est une lumière qui dit la vérité d'une situation. Et si nous n'avons pas des témoins, c'est-à-dire des photophores, des gens qui peuvent, comme cela, montrer les choses telles qu'elles sont, en vérité, eh bien, on perd cette habitude. Et on prend pour normal une situation qui est ténébreuse.
La caverne.
Oui, oui, notamment. Toutes nos cavernes.
Ça préfigure aussi quand il sera après la crucifixion, la résurrection, quand il sera plus avec nous, pendant jusqu'à sa venue.
Oui, mais il y a même l'idée selon laquelle, comme lui est lumière du monde, il peut nous montrer vraiment, sous toutes ses facettes, ce qu'est la vie. Et le chemin, etc. Et donc, comme on peut voir tout, eh bien, après, on peut agir en connaissance de cause. Mais s'il y avait des zones d'ombre, eh bien ces zones d'ombre seraient des zones d'ombre à jamais, en son absence. C'est-à-dire qu'il prépare son départ. Et c'est, en fait, le mot technique, c'est révélation. Il révèle ce qu'est vraiment la vie, ce qu'est vraiment l'humanité, ce que signifie vraiment aimer, enfin tous les vraiment que vous pouvez imaginer, de façon à ce que, en son absence, on ne soit pas perdu. Dans notre nuit, on puisse continuer à s'orienter, en fait, puisqu'il balise le terrain.
Je trouve que ce texte est très symbolique, en fait, la lumière aveugle, je l'ai vu d'une manière un peu différente.
Eh bien, exactement. Le fait qu'on le voit dès à présent, le fait qu'il se déclare comme lumière du monde, place ce texte clairement dans un registre symbolique. Parce que notre trésorière est là, hein, elle pourra l'attester. On continue à payer notre abonnement EDF, en dépit du fait qu'on confesse Jésus comme lumière du monde.
Est-ce qu'après, dans le texte, il y a une question ? Dans le texte, il y a une autre question aussi, c'est comment on peut
rester ? Comment ?
Comment ces choses peuvent se faire ?
Oui.
Alors,
Ça va être explicité justement là, on va en parler.
Là, l'utilisation de cette lumière, la réfraction.
Alors, la lumière, je dirais, c'est plutôt à deux fonctions ici. Ce qu'on vient de dire, nous faire comprendre qu'on est dans un registre du symbolique, de la métaphore. Et la deuxième chose, nous dire, eh bien, il y a un coup de projecteur. Donc, ouvrez bien les yeux, on montre, et après, quand le régisseur sera parti, ça sera à vous de gérer la scène. Vous voyez ? C'est à la fois un signe pour interpréter le texte convenablement, et en même temps, un signal pour nous dire, ouvrez les yeux vous-même, puisque là, on met les choses en lumière. Profitez-en. Ça ne va pas durer pendant que je suis dans le monde, mais un jour viendra où il n'y aura plus que les pauvres, quoi. Bien. Ensuite, il y a donc Jésus et l'aveugle. Donc c'est là que nous allons voir comment se réalise le miracle. Le miracle, au sens grec du terme, c'est le signe. Séméion. C'est ce qui permet de porter le sens. Je vous rends attentif au fait que... sur la feuille que vous avez, ce n'est pas le verbe « appliquer » qui est utilisé, c'est le verbe « oindre ». Hein, il fait de la boue avec sa salive et il oignit cette boue sur les yeux de l'aveugle. C'est cette traduction qui est la bonne. Ce n'est pas simplement « appliquer », c'est au sens de « oindre ». Et le mot « oindre », c'est un mot intéressant parce que c'est ce qui donne le Messie, en fait, le Christ. Hein, le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction. Donc, c'est une bénédiction qui passe à travers un geste d'onction. Bon, allons-y. C'est quoi cette histoire? Comment ça marche, là? On se demandait les modalités. Ben, allons-y, on y est. Comment on fait pour guérir les gens qui sont aveugles? La réponse est dans le texte, c'est facile, hein? Pas à peine d'avoir fait ophtalmo, hein? Ouais? Pardon ? C'est effectivement ce qui sort de la bouche, ça peut être une métaphore de la parole. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose quand même, cette histoire ? Une boue, c'est... Eh ouais ! Mais ouais ! Allons dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 7, un petit peu. Quelqu'un peut-il nous lire cela ? Genèse, chapitre 2, verset 7. Qu'on se rappelle un petit peu comment ça marchait à l'époque.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante.
Voilà. Donc ça nous fait penser à cette histoire-là, bien entendu. Vous savez que Adam, ça vient de Adama qui signifie la terre. Donc il y a un lien en quelque sorte consubstantiel entre l'homme et ce qu'on appelle abusivement l'environnement. L'environnement, c'est encore nous en fait. On est une sorte d'excroissance de la terre. Enfin, on est la terre. Quand on voit ce genre de connexion, on peut tout de suite se dire, eh bien, c'est qu'on est dans un registre de création en fait. Et pas simplement de création au sens de fabrication de l'homme, mais création au sens de accoucher de l'homme, d'en faire vraiment un homme, pas simplement un être biologique. Et vous disiez, la salive peut symboliser la parole. Le premier récit de la Genèse a entièrement été articulé autour de la parole. Et la lumière est ce qui préfigure toutes les autres étapes de création. Donc c'est vrai qu'il y a là quand même des signes qui nous font dire qu'il y a un lien entre ces textes. Évidemment, si on a dès le départ de notre lecture de la Bible une lecture extrêmement littéraliste, on va se dire « la terre a bien été fabriquée comme cela », donc on n'est pas dans un registre tout à fait métaphorique. Mais rétrospectivement, grâce à notre lecture de Jean 9, on prend du coup aussi Genèse 1 sous l'angle de la métaphore, qui n'est pas la création du monde à un temps zéro, mais la création du monde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour créer le monde, pour le rendre vivable? Eh bien, à la fois avec Genèse 1 et à la fois en disant, mais en fait, cet homme aveugle de naissance, c'est juste qu'il n'a pas encore ouvert les yeux. C'est que juste, il n'est pas encore vraiment venu au monde. C'est que juste, il n'en a pas fini de naître. Et que la création est continuée. Bon, il suffit d'aller voir du côté de quelques biologistes style Théodore Monod, etc., pour se rappeler qu'on n'en finit jamais de devenir humain. Et ouais. Mais ça va mieux en le sachant. Les pharisiens, eux, ne savent pas, ou ils pensent savoir, mais ils ont un savoir erroné. Et c'est là-dessus que Jésus va les attraper. Va, lave-toi dans le réservoir de Siloé. Certains sont peut-être allés à Jérusalem, ont vu la piscine de Siloé. Ouais. Enfin, ça veut dire rien à voir, hein, parce qu'ils ont vidé l'eau. Voilà. Ouais. Donc, il va, il se lave. Siloé, ça veut dire chalar, ça veut dire envoyé. Et ça veut dire ne reste pas là où tu as vécu jusqu'à présent. Après, on va apprendre que c'était un mendiant en plus, hein, qu'il avait tendance à être assis. C'est-à-dire qu'il était extrêmement fiché en terre. Et là, il est dans une dynamique du mouvement, dynamique du nettoyage aussi. Enfin, c'est le principe du bain rituel. Le bain rituel, c'est ce qui permet de passer d'une étape à une autre. Aujourd'hui encore, dans le judaïsme orthodoxe, il faut en passer par le mikvé pour pouvoir réintégrer la société dans certaines circonstances, notamment vous, mesdames. Et alors, donc c'est lui qui était aveugle et c'est les autres qui ne le reconnaissent pas. Ouais, c'est quand même plein d'humour, cette histoire. C'est là qu'on voit que l'aveugle n'est pas celui qui pense voir. Enfin, c'est paradoxal, quoi. N'est pas celui qui croyait l'être. Ouais. Bon. Et donc, tout se joue sur ouvrir les yeux. Hein, c'est bien l'expression grecque. Ouvrir les yeux, donc c'est pas un problème de lésion entre la cornée, le nerf optique et le cerveau. Hein. Ouvrir les yeux, de nos jours encore, c'est « Oh, regarde, regarde vraiment ». C'est ce que Sherlock Holmes n'arrête pas de dire à Watson. Voilà. Regardez, mais vous ne voyez pas. Ouvrez les yeux, quoi. Même s'ils sont ouverts, en fait. Donc, ça correspondait bien, monsieur, à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que Jésus ouvre notre regard pour le jour où lui ne sera plus là, où il ne pourra plus être nos yeux. En fait, c'est un travail pour nous rendre adultes, vraiment, majeurs au sens qu'ancien du terme. Je rajoute deux choses sur la question de la salive. Soit c'est une métaphore de la parole, ce qui peut être intéressant. J'ai repéré aussi deux autres choses. Sur les rites de naissance, d'abord chez les Maasai, les fameux guerriers Maasai. Quand un enfant Maasai naît, on lui crache sur la figure. C'est pour l'enlaidir et donc pour le protéger. Et ouais. Parce que quelque chose qui est moche, prête-moi jalousie, etc. C'est symbolique, hein, cette affaire, rassurez-vous, mais ils ne sont pas plus bêtes que nous. Hein. Mais c'est une manière de, je veux dire, conjurer le mauvais sort. C'est une façon, surtout, de prendre conscience qu'un petit homme peut faire envie et que le fait de lui cracher dessus pour qu'il soit moche, pour qu'il soit enlaidi, c'est une façon donc de le protéger des mauvais esprits. Sinon, en Irlande, on utilise ce qu'on appelle de l'eau lustrale, qui est en fait un rite romain contre les mauvais regards, donc ça revient à peu près au même, sauf que ça semble moins problématique d'utiliser de l'eau lustrale que du crachat. Et le crachat est plus intéressant, parce qu'on s'implique dedans. Oh, je ne vais pas rentrer dans les détails. De l'eau lustrale, c'est un peu comme de l'eau bénite. Finalement, vous voyez, c'est ce qu'on va utiliser dans les mikvés, d'ailleurs, les bains rituels. C'est généralement de l'eau de pluie qui n'a pas été, je vais dire, contaminée ou souillée. Mais bon, quand on voit ce qu'il y a dans les nuages... Enfin, bon, c'est vrai que la frontière française est quand même plutôt bien protégée pour les nuages, mais... Et ce qui est frappant, c'est le verset 9. Les uns disaient « c'est lui », d'autres disaient « non », mais il lui ressemble, et lui-même disait « c'est moi », en grec « ego eimi ». Eh bien, ça, c'est vraiment magnifique. Parce que d'abord, c'est la titulature de Jésus, c'est comme ça que Jésus se présente, « ego eimi ». Et puis, en fait, c'est le moment où il va être un « je », il va cesser d'être un aveugle, et il va être « je »,« ego »,« je ». Ego eimi. Je suis moi, en fait. Oui. Eimi, déjà, ça veut dire je suis. Et là, c'est mon. Je suis moi, moi je suis. Enfin, ouais, je viens de me trouver. Je viens de me voir. Je viens de venir au monde. Et au verset 11, on redit. Que Jésus a oint ses yeux. Eh bien, le fait de voir, c'est loin d'être anodin dans la pensée biblique. Et ceux qui voient dans l'Ancien Testament, les voyants, sont les prophètes. Certains prophètes. Samuel est un voyant. C'est pas des gens qui prédisent l'avenir. C'est pas une histoire de divination. C'est une histoire de disponibilité au présent. Voir vraiment les choses. Clairvoyant, c'est cela même. Oui, des fois, on est obligé d'utiliser une redondance. Pardon ?
Être lucide, c'est ça ?
Oui, être lucide, en quelque sorte. Mais la lucidité, souvent, est comprise de nos jours comme une sorte de froideur par rapport à ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'on fait un peu une assimilation entre lucidité et objectivité. Là, au contraire, il s'agit d'être même assez subjectif, puisque ça se joue avec un ego émide, un « moi, je suis ». Mais il y a une forme de regard généreux. C'est-à-dire que c'est un regard qui va goûter ce qu'il y a à voir. Ouais, c'est-à-dire que c'est au-delà des sens même. C'est-à-dire que, comme je le dis des fois, on ne s'en tient pas aux façades, aux apparences. On va voir ce qu'il y a derrière. Le vrai regard, c'est celui-là. Au Cameroun, par exemple, il y a encore des guérisseurs qui luttent contre les sorciers ou contre les marabouts. Quel est le travail de préparation de ces gens-là, leur formation, c'est d'apprendre à voir, pour voir ce qu'il y a à régler comme problème. Alors souvent, on se fait des idées sur le fait que c'est des rituels magiques, etc. Non, non. Les guérisseurs africains sont des personnes qui vont dans une famille, qui repèrent quels sont les problèmes au sein des membres de la famille et qui vont pouvoir dénouer ou retisser des choses en fonction des problèmes auxquels ils sont affrontés. Un jour, je vais essayer de vous faire une petite prédication sur guérir de la malchance.
C'est bizarre quand même que cette parole, une personne plus simple, pose, si j'ai bien compris,
ouais.
En disant « c'est moi, je suis ».
C'est exactement ça. Et comment ça se passe? Eh bien, ça se passe parce que lui voit et Jésus, lui, il n'y est plus. C'est comme les disciples d'Emmaüs. Au moment où leurs yeux s'ouvrent, Jésus, lui, disparaît. Dans l'épisode. Et vous voyez, ça a été préparé par le fait qu'ils lui disent « va ». Et va en plus vers « je t'envoie », hein, vers Siloé. C'est-à-dire qu'il y a aussi une désaturation. C'est-à-dire que Jésus, le risque, ce serait qu'il sature la vision. C'est pour ça qu'à un moment donné, vers la fin de l'évangile de Jean, il va dire « il est préférable pour vous que je m'en aille ». Parce que sinon, eh bien, on ne vit qu'à travers lui. Donc on ne vit pas, en fait. Ce qui était le cas de ce mendiant, puisqu'il vivait à travers l'aumône des autres. Donc lui-même n'avait pas d'existence propre. Maintenant, il marche, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'il était assis. Il se déplace et il dit « je ». Comme vous dites, maintenant il existe. Avant, ce n'était pas le cas. C'était un homme banal, maintenant c'est un individu. Ah ben oui, vous êtes obligé, c'est dans le texte. Oui, il revient dans la colonne suivante. Mais d'ailleurs, on ne parle pas de son départ, comme dans les disciples d'Emmaüs. Il disparaît. On ne parle plus de lui. C'est ça, c'est que nécessairement, ça se joue dans un autre mode de présence d'être. Ensuite, la troisième case, les versets 13 à 17. Alors là, c'est quand même assez sympathique parce qu'on apprend que Jésus est un sacré pécheur, puisqu'il a violé le sabbat. Et en quoi a-t-il violé le sabbat ? Non, pas en faisant un miracle ce jour-là. Ouais, en faisant le potier, en pétrissant, ce qui est interdit. Et du coup, c'est quand même magnifique parce que les pharisiens se retrouvent pris dans leur jeu de contradiction. Enfin, ils se retrouvent pris dans leur orthodoxie. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont bien obligés de constater que cet homme, il s'est passé quelque chose de bien pour lui. S'il s'est passé quelque chose de bien, c'est forcément quelque chose qui trouve son origine en Dieu, mais qui serait visiblement passé par un vecteur maléfique, puisque par un pécheur. Vous voyez, il y a une contradiction dans les termes. Ils sont pris dans une double contrainte, en fait, au sens strict du terme. Alors comment ils vont s'en sortir ? L'astuce, c'est, mais peut-être qu'en fait, il n'était pas aveugle de naissance. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas de vraie guérison. Vous voyez, c'est magnifique comme célébration de la vie, ça. Ça montre à quel point la logique de l'intégrisme est riche de générosité et de respect de l'autre. Il doit mentir, puisque ma logique ne fonctionne plus. Donc c'est à la faute de l'autre. Vous voyez ? Il est hors de question que je bouge, c'est forcément l'autre qui falsifie quelque chose. En ce sens, ils ne sont pas très christiques, ils ne sont pas très disponibles au présent. Et ils n'ont pas spécialement envie de se réjouir que quelque chose de bien se soit passé, oui, parce que ça les contrarie dans leur idéologie.
C'est une façon...
Attendez, juste, et puis après je vous donne la parole, oui.
Ce double aspect, plus tard, il y a division parmi eux.
Oui.
En général, à chaque fois que l'on fait quelque chose d'extraordinaire ou d'inattendu, il y a une division parmi le groupe d'attaquants. J'ai trouvé ça, par exemple, à la Libération. C'était à Michel-Anjotel, il y avait un groupe de personnes qui malmenaient une femme qui avait été très proche des Allemands. Et je me suis avancée et j'ai dit, elle appartient à la justice. Et immédiatement, un groupe, une partie des attaquants, se sont tournés vers moi. Et je peux dire, j'ai été soutenue. Presque sauvée par quelqu'un qui a dit laissez-la, c'est une gosse. J'étais en effet assez jeune. Et c'est souvent quand on a quelque chose d'ambigu, enfin, deux aspects, qu'il y a, cela procure une division parmi un groupe qui est uni auparavant.
Oui, on n'a jamais accès à la vérité complète, ce qui fait qu'on a toujours deux approches différentes qui clivent en fait. Oui. Et vous vouliez dire ?
Non, je voulais préciser la contradiction des pharisiens.
Bien, pour les pharisiens, ils sont englués dans leur système qui est que quand quelque chose de bien se déroule, ça vient de Dieu. Dieu est à l'origine de ce bien. Mais ils considèrent que Jésus est un pécheur puisqu'il a enfreint le sabbat, ce qui est vilain. Du coup, comment quelque chose de bien aurait pu être manifesté par un pécheur? C'est pas possible, puisque le pécheur est pécheur. Donc il commet du péché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on met ici en évidence le fait que la compréhension du péché selon les pharisiens est elle-même à revoir. Et vous savez, c'est les mêmes catégories de personnes qui disaient « Mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ?» C'est-à-dire qu'on est dans une logique du déterminisme. Donc on est dans une logique des États de type médiéval, qui va être un petit peu bousculée par le temps de la réforme, où justement on va mettre un peu de porosité dans tout cela. Et alors ce qui est frappant, c'est que la notion de péché, elle est transférée de l'aveugle sur Jésus. C'est un peu ce que vous disiez finalement, il y a toujours du transfert. Mais il va y avoir du contre-transfert après, bien. Voilà. Pour se défendre, il paraît que la meilleure chose à faire, c'est l'attaque. Et bien, du coup, boum, ils attaquent Jésus. Donc, comme ils vont se défendre en disant, eh bien, c'est que cet homme nous a menti, qu'en fait, il n'était pas aveugle, etc., ils font appel aux témoins oculaires, les plus proches de la situation, les parents. Donc les parents sont convoqués pour savoir ce qu'il en est. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vie jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et là, les parents manifestent un non-savoir total en dehors de l'identité de leur fils.
Ils ont peur.
Oui, ils ont peur. Sont assez timorés, disons. Mais on se demande finalement pourquoi est-ce qu'on fait intervenir les parents, parce que au fond les pharisiens sont pas très enclins à se laisser convaincre. C'est-à-dire que même ce témoignage va pas être décisif pour eux. Et en fait on comprend avec les versets 22 à 23, c'est en fait la pointe du texte. C'est-à-dire que la pointe du texte, elle est déjà un anachronisme par rapport au moment où les faits sont censés avoir eu lieu. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas cette oukase selon laquelle on expulserait de la synagogue ceux qui diraient que Jésus est le Christ. C'est tardivement que cela intervient. Peut-être dans les années 60, et a fortiori 70. Mais ici, considérer que les parents seraient au courant de la menace qui peserait sur eux s'ils venaient à dire que Jésus est le Christ, c'est un anachronisme. Par rapport au récit, mais pas par rapport au temps de la rédaction et encore moins de la lecture. Ce qui signifie que ces versets 22 et 23 sont destinés à démonter le mécanisme de la violence collective. C'est-à-dire que ça permet de mettre en évidence les zones d'hostilité auxquelles les lecteurs peuvent avoir affaire. Je veux dire, aujourd'hui encore, ces dernières semaines, j'allais dire au nom de la religion, mais non, pas au nom de la religion, au nom d'une compréhension de l'Évangile, ça cliffe pas mal en France. Et pas que sur la question du mariage pour tous, d'ailleurs, mais ça cliffe pas mal. Et il y a des petits bouts d'excommunication qui traînent qui sont pas inintéressants sur le plan sociologique. Bon. Ici, on a des parents qui font le lit de cette population un peu nicodémite qui préfère se cacher et avoir la vie sauve. Ils refusent l'affrontement. Voyez ça avec lui, il a l'âge de vous répondre, nous on s'en mêle pas. Donc, interrogez-le lui-même. En fait, c'est l'image de ces judéo-chrétiens, donc après la chute de Jérusalem en 70, par exemple, mais peut-être un petit peu avant, qui n'osent plus confesser ouvertement leur foi de peur d'être excommuniés. Ce qui est en tension avec l'idée selon laquelle la vérité rend libre. Et ici, la vérité rend captive. enfin, elle les rend captives. Et donc les parents sont au centre de cette narration et ils deviennent des figures qui nous font réfléchir. Parce que, je sais pas, on aurait peut-être dû en parler avant, mais on n'est quand même pas très heureux de la réaction des parents. Enfin, je vous l'impose un peu, mais ils abandonnent leur fils comme ça. Et...
Ils ont peur. Ça existe. Il y a des gens qui ne témoignent pas de quelque chose parce qu'ils ont peur de dire la vérité.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas témoigner dans un tribunal de peur des conséquences. Alors, justement, oui, dis.
Je ne pense pas que moi, les parents, vraiment, ne savent pas comment il a été. Ils ne savent pas comment ça s'est fait, qui lui a ouvert les yeux. Ils ne savent pas.
Oui.
Ils le savent. Donc, je trouve ça très bien de leur part qu'ils disent qu'effectivement, il a l'âge, lui, de parler de ce qui lui est arrivé. C'est pas aux parents de parler en son nom.
Si ce n'est qu'il y a quand même le commentaire du narrateur qui est censé être la personne qui connaît le ressort de l'histoire, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. C'est-à-dire que le commentaire... vous savez, cet épisode, dans son registre symbolique, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas eu lieu tel quel. Donc... quand le rédacteur écrit cela, c'est parce que justement il est à la pointe de son récit et il veut mettre en évidence le message qu'il entend faire passer. C'est-à-dire, oui, parce que en fait votre réaction est juste par rapport à un fait historique, mais par rapport à une narration, elle mérite d'être.
Oui,
ouais, c'est ça. Je comprends bien. Dans ce cas-là, oui, oui.
Attendez, ils étaient aveugles de naissance, donc ils le savaient. Enfin,
oui.
Ils auraient pu répondre oui, il était aveugle de naissance.
Oui, oui, c'est ça.
Ils ne peuvent même pas dire ça.
Non, non, même pas. Juste son identité, oui.
En fait, ils ont décidé de se décharger sur l'autorité religieuse. Donc, ils font confiance aveuglément, peut-être, on peut dire. Les vrais aveugles, c'est eux. C'est-à-dire qu'ils se déchargent de la raison sur l'autorité religieuse pour pas voir la vérité eux-mêmes.
Ils ont bien vu que leur vie était menacée. De ce point de vue-là, ils sont très clairvoyants. Ils préfèrent fermer la bouche, ils préfèrent cacher la bouche plutôt que, parce qu'ils ont les yeux bien ouverts. Oui, non, mais c'est bien de l'œil du cœur dont on parle. C'est-à-dire qu'ils ont bien repéré les mécanismes de violence qui sont susceptibles de déferler. Et pour se protéger, ils ferment la bouche. Parce qu'en fait, celui qui voit, il voit quoi ? Il voit d'abord la haine, en fait. C'est ce que disent ceux qui reçoivent l'initiation pour être guérisseurs en Afrique. Ils ouvrent les yeux, qu'est-ce qu'ils voient ? C'est la haine. Et c'est utile, parce que du coup, on sait là où il faut travailler. Et ils la voient, la haine, à l'œuvre. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que c'était une question piège, et que... voilà. Mais effectivement, ça nous permet de voir qu'il y a deux niveaux de compréhension pour la question de l'aveuglement et qu'on n'est pas du tout sur la question ophtalmique, mais bien sur la question du regard que vous avez appelé le regard du cœur. Alors, du coup, quand on remonte dans mon texte, on reprend la case qui est en bas à droite, hein, on ne repart pas tout en haut. Hein. Je vous l'ai fait sous forme parabolique, donc c'est les versets 24 à 34 qui sont juste au-dessus, là, à droite. Donc les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu ». Ah ça c'est les questions pièges. Ça on le met dans une situation impossible. Parce que grosso modo, ils lui demandent de rendre gloire à Dieu en démentant ce qu'il a dit. C'est-à-dire pour eux, la gloire va coïncider avec l'idée qu'ils se font du divin. Et s'il maintient sa version, dans ce cas-là, il ne glorifie pas le divin. Nous savons que cet homme est un pécheur, donc ça ne peut pas être lui. Allez, dis-nous la vérité, la vraie vérité, celle qui nous arrange. Et il répond, donc s'il est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Un peu récit de conversion, ça, quand même, hein. que toutes les déclinaisons possibles. Il y a un avant et un après. Le risque, c'est de penser qu'il y a une instantanéité entre l'avant et l'après. C'est-à-dire, ça se joue en un instant de seconde. Vous savez, on est touché par la grâce. Et à la seconde près, on peut savoir quand est-ce qu'on était pécheur et quand est-ce qu'on est devenu chrétien. Bon, ce texte montre qu'il y a un cheminement vers Siloé. Les choses ne sont pas instantanées. À quel moment il ouvre vraiment les yeux ? Quand il va se laver, c'est quand il revient, c'est quand il est face aux pharisiens. Il y a un processus qui lui fait ouvrir les yeux. Mais il n'y a pas une instantanéité qui serait repérée dans le texte. Quand est-ce que Jésus ressuscite ? On n'en sait rien. Tout le monde arrive après la bataille.
Mais quand même, il y a un parallèle avec le baptême. Parce qu'il va à la piscine et c'est après qu'il voit. Donc c'est le passage par l'eau du baptême qui fait qu'il ouvre les yeux.
À moins que le passage par l'eau du baptême, moi je vois volontiers effectivement un lien entre ce bain rituel et le baptême, à moins que le bain du baptême lui fasse prendre conscience de ce qu'il est vraiment, que ça lui ouvre les yeux rétrospectivement en quelque sorte. Précisément parce que le baptême, c'est ce qui nous ouvre les yeux sur une réalité déjà présente. Donc oui, ça peut être opérationnel. De nos jours, souvent, on est chrétien avant d'être baptisé quand on est adulte. Mais là, ça peut effectivement fonctionner comme une prise de conscience, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Ça met en évidence quelque chose qui était déjà joué. Et Jésus, quand il dit souvent « tu as été pardonné, tu es pardonné », c'est passif. C'est-à-dire que Jésus est témoin d'une scène qui s'est déjà jouée auparavant. Les pharisiens vont avoir une petite formule d'adjuration classique pour impressionner l'homme. Et là, on voit qu'il n'y a plus vraiment de division parmi les accusateurs, hein, quand même. Donc, la violation du sabbat, puisque c'est ça qui motive la nomination en tant que pécheur, renvoie Jésus dans le camp des pécheurs et renvoie la personne qui a guéri aussi dans le camp des pécheurs. Ça devient une sorte de collaborateur. Ouais. Du coup, il se trouve dans une situation extrêmement difficile. Et il y a une sorte de bloc qui va s'opposer à cet homme, c'est « nous savons ». Nous savons. Verset 29. Hein. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Nous savons. C'est certitude. Eh bien, l'homme ne se laisse pas impressionner. Il résiste. Ouais. C'est-à-dire qu'il a cette confiance qui lui permet de résister à ce bloc de granit. Nous savons. Nous savons, c'est nous les gnostiques, hein. Eh bien, face aux gnostiques, on ne craint pas de se déclarer agnostique. Il y a un non-savoir. L'homme va jouer sur le non-savoir. Et c'est là qu'il y a du contre-transfert. C'est que le non-savoir, il est du côté de ceux qui savent. Ah, vous savez. Mais vous ne savez pas comment ça s'est passé, en fait. Ah oui, vous êtes disciple de Moïse, vous êtes dans l'intimité de Moïse, le prophète des prophètes, et en fait, vous ne comprenez rien à ce qui s'est passé. Intéressant. Ah oui, vous savez. Intéressant. Ah oui. Et du coup, ça va marcher, puisqu'au verset 34, ils y sont à répondre « Alors, tu es né tout entier dans le péché, puisque tu es aveugle de naissance, et tu nous enseignes. » L'horreur. Vous imaginez, c'est l'horreur absolue pour les pharisiens. C'est l'horreur absolue. Oui. Il revient aussi avec cette logique, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Hein, donc vous voyez, c'est cette logique dans laquelle les pharisiens sont enfermés. Comment ça peut marcher du coup ? Puisque Dieu n'exauce pas les pécheurs, que cet homme est manifestement un pécheur, ça c'est évident puisqu'il a transgressé le sabbat. Et que manifestement, il s'est quand même passé quelque chose d'intéressant pour cet homme. Et que non seulement c'est intéressant, mais c'est exceptionnel, puisque jusque-là, il n'y avait jamais eu de récit d'homme recouvrant la vue. Enfin, recouvrant la vue. D'ailleurs, trouvant la vue. Sauf que le texte grec, lui, dit « recouvrer la vue ». Et recouvrer la vue, c'est... Enfin, avoir, peut-être que dans le grec, c'est pas aussi évident, mais c'est « anablepein », en tout cas. « Anablepein », c'est quand même « voir de nouveau hein ». C'est cette idée-là qui me semblait intéressante, c'est que dans l'esprit de Jésus, ou du rédacteur, c'est à la fois voir à nouveau, mais c'est un peu comme ce qui s'était passé avec Nicodème. C'est voir d'en haut. Vous voyez ? Comme on dit naître de nouveau ou naître d'en haut. Il y a cette ambiguïté un peu avec Anna. Kata, c'est ce qui descend, et Anna, c'est ce qui monte. Eh bien, ça, vous voyez, c'est, je pense que ce n'est pas abusé, pas tirer sur le texte de dire prendre de la hauteur pour voir. Se porter à hauteur de l'universel pour utiliser des catégories qui me plaisent bien, mais qui ne me semblent pas non plus complètement infidèles à l'affaire. Et donc, jamais jusque-là, on n'avait eu un tel récit de guérison. On avait des lépreux qui avaient été guéris, des gens comme ça. Il y avait eu des récits avec de l'huile qui avait brûlé pendant 8 jours au lieu d'une journée, etc. Mais quelqu'un qui un aveugle de naissance comme ça, jamais. Jésus, lui, a manifestement la conscience que c'est une sorte de retour à l'état normal. À l'origine, en quelque sorte. À l'origine au sens Adam et Ève, au sens de ce qu'est vraiment l'homme. Du coup, ils sont extrêmement vexés, nos amis pharisiens. Ils vont être tellement vexés qu'ils vont avoir une violence redondante. Alors, c'est pas très visible dans le français, mais on le voit mieux dans le grec, lorsque le verset 34 finit par « et ils le chassèrent ». Bon, ça nous semble normal. Sauf que dans le grec, il y a une redondance. C'est « exébalon auton exo ». Donc, ils le jettent hors d'eux, hors d'eux. Vous voyez, c'est une double expulsion, quoi. Ils font rien qu'à le rejeter. Il y a un double ex en grec. C'est balein, c'est le fait de jeter. Ex balein, c'est le fait de rejeter. Et exo, c'est le fait de le rejeter à l'extérieur. Ouais. C'est l'expulser à l'extérieur. Comme si on pouvait l'expulser à l'intérieur. Enfin, vous voyez. Ouais. C'est une façon de dire qu'il y a plus que chasser et rejeter, oui. Mais l'expulser dehors, ça aurait été... Enfin, il faudrait trouver quelque chose avec deux ex, expulser à l'extérieur. Et en fait, ça joue un peu comme un accouchement, là aussi, vous voyez. C'est l'expulsion aussi. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est qu'on ne sait pas de quoi il est expulsé, en fait. Il est expulsé d'où, en fait ? Ouais, mais il n'était pas dans la synagogue. Ouais. Bah, tout est possible, en fait. C'est que le sens reste ouvert. Expulsé de la synagogue, pourquoi pas ? Expulsé du temple, pourquoi pas ? Expulsé de la communauté, pourquoi pas ? Expulsé du territoire, pourquoi pas ?
De tout. C'est hors de ma vue.
Hors de ma vue, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. Tu nous empêches d'être myope. C'est insupportable. C'est comme le dimanche, là, si vous avez écouté le texte sur le démoniaque guéri, les villageois disent à Jésus, arrête de guérir, on n'en veut plus de tes libérations. Laisse-nous tranquille, quoi. Ouais, toi, tu t'en vas. Et ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, puisque Jésus apprend qu'il a été chassé. Chassé au sens de expulsé à l'extérieur. La question est de savoir où Jésus se trouvait-il, lui. Est-ce qu'il était à l'intérieur, extérieur, au-dessus, en dessous, derrière, devant? Enfin, ne me faites pas le coup de l'omniprésent quand même. Hein. Peut-être qu'il avait des réseaux d'informateurs. Donc, il apprend qu'il a été chassé, et l'ayant rencontré, là, c'est déjà un peu moins le fruit du hasard. Et c'est là qu'effectivement, on va avoir la question de la foi, hein, de la croyance, pisteo, c'est vraiment le mot de la foi. Crois-tu au Fils de Dieu ? Vous imaginez quelqu'un dans la rue qui vous dit ça. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe pour l'homme qui a été guéri. Il croise quelqu'un dans la rue qui lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Ouais. Alors, comment on réagit dans ce cas-là ? Parce que moi, j'ai jamais vraiment eu le coup. Ouais.
Si, il y a des témoins de Jéhovah, quelquefois, ils m'ont posé des
questions. Oui, mais ceux-là, on les repère.
Oui, c'est même genre.
Oui, c'est comme les LDR du 7e jour.
Oui,
ouais. Ah ouais, ils ont.
Récemment, on m'a proposé à la scène en disant est-ce que Dieu aimait les femmes ? Moi, je dis naturellement. C'est évident.
Bah, d'ailleurs, ne parle-t-on pas de Dieu et de sa grande clémence ?
Mais comme ça, il m'a dit.
Ouais. Vous êtes vraiment de bonne composition, tout ce temps que vous êtes. Très bien. Je suis admiratif. Parce que moi, quelqu'un vient me voir comme ça. Bon, ben, je ne sais pas en fait, il faudrait que je vois. Ben, moi je serais tenté de lui répondre « Et qui est-il Seigneur afin que je croie en lui ?» Tiens, voilà. Moi je trouve que c'est une bonne réponse. Ça. Rien de tel pour un pasteur que de répondre à une question par une autre question. Enfin, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Non, non, je veux juste savoir de qui il me parle. Parce que vous dites Dieu, je dis Dieu, peut-être qu'on ne parle pas la même chose. Et donc ça vaut toujours le coup, dans une dispute théologique, de commencer par se mettre d'accord sur le vocabulaire. Oui, non, mais c'était une image. Vous me dites le Fils de Dieu, je vous dis le Fils de Dieu, peut-être qu'on ne parle pas de la même chose. Oui.
Tout à l'heure, quand vous avez lu le texte, alors c'est parce que la traduction, je ne sais pas...
Moi, j'avais une seconde.
C'est une seconde aussi, moi. Et vous avez dit le Fils de l'homme. C'était un lapsus.
C'est vrai ? Ah oui, c'est le Fils de l'homme dans une seconde révisée. Mais, ouais, en fait, parce que là, je vois qu'en fait, il y a beaucoup de manuscrits où c'est le Fils de Dieu. Et, parce que là, moi, dans ma version grecque, c'est le Fils de l'homme également, mais c'est pas significatif parce que, de toute façon, c'est un choix parmi plusieurs manuscrits. Ah oui, j'avais pas repéré ça, c'est amusant. Bah, heureusement qu'on l'a lu dans cette version. Bah, il faudrait voir quels sont les manuscrits qui attestent. Parce que là, dans cette édition, il y a une petite note qui dit qu'effectivement, dans plusieurs manuscrits, attestent Fils de Dieu et pas Fils de l'homme. Donc là, c'est un travail qu'on appelle de critique textuelle. On regarde quels sont les meilleurs manuscrits, soit parce que ce sont les plus anciens. Soit c'est parce que ce sont ceux qui ont connu le moins d'intermédiaires entre les temps anciens et aujourd'hui, et soit parce qu'ils retiennent la version la plus difficile, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu trop de corrections. Oui.
Cela dit, compte tenu du contexte, c'est plutôt le Fils de Dieu, si on réfléchit bien. Le Fils de Dieu, car on ne serait pas
Dans la version Nestlé-Aland du grec, c'est-à-dire c'est une édition critique qu'ils choisissent, ils ont choisi « Fils de l'homme », dans celle que j'ai sous les yeux, là. Vous avez un interlinéaire, l'un ou l'autre ? Vous n'avez pas un petit bout de version grecque qui traîne ? Parce que je n'ai pas mon Nouveau Testament grec là-haut. Ah bah super. Et alors, il nous donne quoi comme manuscrit qui atteste « Fils de l'homme » ? Est-ce qu'il y a du D, du B, du A, du Sinaiticus ? C'est le verset 35. C'est le dernier mot du verset 35. Shukran. Ouais, donc là, c'est Anthropou. Et le verset 35. Ouais, les meilleurs documents, c'est-à-dire le papyrus Bodmer, le Sinaiticus, le Codex de Bèze, donnent Anthropou, fils de l'homme. Merci. Donc, ouais. Ben ouais. Mais il y a une différence entre les deux. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que vous m'avez l'air de savoir, vous. Dites-moi un peu. Oui. Ouais. Mais est-ce que justement, ne serait pas divin celui qui est véritablement homme? Est-ce que ça ne serait pas ça le projet divin, c'est d'être homme avec l'étape de la création derrière soi? Daniel. Oh, ça renvoie bien souvent dans les évangiles et ça renvoie un petit peu à l'Apocalypse, mais bon, c'est après l'Apocalypse, vous me direz. Mais le Fils de l'homme, c'est dans les évangiles. C'est pas une invention simplement de l'Apocalypse. Mais dans Daniel, on a déjà la vision, je le vis comme un Fils d'homme qui venait, que Barnacha, etc. Oui. Ma question, c'était, admettons que ce soit Fils de Dieu plutôt que Fils de l'homme, ça changerait quoi au fond? Oui, mais d'un côté, en Daniel 7, on a quand même cette prophétie qui nous fait dire que ça pourrait être dans... Oui, mais dans ce cas-là, il n'a pas plus de connaissance du Fils de Dieu, vous me direz. Ça, c'est parce que vous voulez que ce soit comme ça. Mais c'est ça qui est intéressant avec les évangélistes, c'est que ça nous fait travailler sur le degré zéro de la connaissance religieuse. À la fois, les évangélistes ont une connaissance des textes qu'on appelle aujourd'hui les textes du Premier Testament, mais ils considèrent que le lecteur est quelqu'un qui n'est pas encore croyant, et qui n'est pas encore né, qui n'est pas encore venu au monde. Et donc, un évangile, c'est l'outil par lequel nous pouvons accéder, à mon avis, à cette qualité de fils de l'homme, et donc de fils de Dieu, en fait. Je ne saurais trop vous recommander la lecture du dernier numéro d'Évangile et Liberté, dans lequel nous avons, il y a une très belle page, je veux dire, d'Albert Schweitzer, et je vous recommande le dernier paragraphe, sur le rapport entre le fait religieux et l'humanité. Ah mais je vois que certains ont carrément le numéro sous les yeux, allez, donnez, je vous en fais la lecture. Oui, je vais retrouver ça, je pense. Je vais m'en sortir. Il n'y a pas trop de pages, c'est pour ça que je vais retrouver. Donc, religion et humanité. Albert Schweitzer, c'est en plus d'en vivre, c'est un petit livre collection Albin Michel sur des prédications, je vous le recommande. Jésus, donc c'est lui dont on parle dans l'Évangile, a soudé si étroitement l'une à l'autre religion et humanité, on pourrait dire Dieu et homme, qu'il n'y a plus de religion sans vraie humanité et que les devoirs de la vraie humanité ne se conçoivent pas sans religion. C'est-à-dire que vous pouvez appeler ça la double nature du Christ, pourquoi pas. Mais c'est une façon de dire que l'Évangile nous fait accéder à ce savoir qui consiste dans le fait que nous sommes pleinement humain quand nous sommes à la hauteur de l'espérance de Dieu. C'est-à-dire que, comme le dira la théologie orthodoxe au sens de l'Église d'Orient, je reprends d'ailleurs la formule du baptême, l'image du baptême que vous utilisez tout à l'heure, la religion, ça sert à la divinisation de l'homme. Et la divinisation de l'homme, c'est quand l'homme est capable d'évangile. C'est à la fois quand il est capable de dire « ego eimi », « moi, je », débarrassé de tout orgueil. Mais quand il est capable de résister à un « nous savons », quand il ne se laisse pas impressionner par un « nous savons ». quand il arrive à être debout plutôt qu'assis, quand il reçoit ce que le Christ lui offre, plutôt que de se contenter de son savoir personnel. Quand il se laisse un peu déstabiliser par le fait que, ben oui, il peut arriver des choses intéressantes par quelqu'un qui, a priori, est pécheur. Vous voyez, ça se joue un peu sur ces questions-là, à mon avis. Ça décale un peu quelques frontières. Et du coup, donc là, c'est une situation intéressante, puisqu'il est face à son guérisseur sans le savoir. Et il va le reconnaître alors qu'il ne le connaissait pas, en quelque sorte. « Tu l'as vu, lui dit Jésus. » Parce que maintenant, il peut le voir. « Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que la guérison de l'homme ne dépend pas de la foi que l'homme pouvait avoir dans le guérisseur, ni de la réputation, puisque en fait, il ne le connaissait pas, il ne le reconnaît pas. Donc, il arrive que quelqu'un aille mal et qu'un étranger prenne soin de lui et que ça suffise. L'effet placebo n'est pas toujours le seul qui fonctionne. De l'exogène, c'est pas mal. Ou de l'exopathie, je ne sais plus comment on dit. Enfin, ce qui n'est pas de l'homéopathie. L'hétéropathie ? Allopathie ! L'hétéropathie aussi, mais... Après, vous voyez ces choses comme vous voulez. Hein. Bien. Donc, l'homme accède au voir, mais au voir véritable, et c'est ce qui va lui permettre d'accéder au croire. Donc, voir pour croire, croire pour exister, comme vous le disiez. Ego eimi. Donc, ne privez pas les gens de la vérité. Ne privez pas les gens de la lumière, sinon, en fait, vous les empêchez de vivre, d'exister. Bon, ça, des fois, on le fait exprès, pour enquiquiner les gens, par haine de l'autre. Mais si, aimer, c'est, en fait, ne pas priver l'autre de cet accès à la vérité. De ne pas priver l'autre d'accéder à la vue véritable. Bien, et donc ça finit vers ces versets 39 à 41 qui sont à nouveau assez étonnants. Comment est-ce que vous comprenez Jésus qui dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement ». Alors c'est pas ça qui me pose problème, parce qu'on peut juger pour simplement dire le droit, rétablir la victime, etc. Mais pour que ceux qui ne voient point voient, bon là, ok, on comprend, c'est pour guérir, mais que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est un peu pas très gentil, ça. C'est une sorte d'équivalence, en tout cas, là. Et comme, est-ce que c'est une erreur du copiste? Est-ce que c'est pas digne de Jésus? Ou est-ce qu'on en fait quelque chose de cette phrase? Oui, mais ça, à la limite, ça peut être compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à son conjoint, etc. Mettre un peu de distance entre les individus, c'est bien qu'il y ait un peu... qu'on soit pas dans le fusionnel, quoi.
Apporter la division,
en fait. Ouais, la séparation. Mais là, quand même, dire que ceux qui voient, il faut qu'ils deviennent aveugles, c'est plus que raide.
C'est justement les pharisiens qui croient qu'ils voient.
Oui.
Qui croient qu'ils ont la voix et tout ça.
Même
ils sont
aveugles. Oui. C'est qu'on est probablement sur ce double niveau. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui pensent que bien voir, c'est voir avec la rétine, sans penser au fait que bien voir, ça peut être avec la foi, en fait. La foi, c'est la confiance. La confiance, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le regard généreux. Le regard qui observe, non pas pour voir simplement ce qui m'intéresse, mais pour voir les choses telles qu'elles sont, et, ou telles qu'elles pourraient être éventuellement. Mais c'est quoi cette pédagogie-là, que ceux qui voient deviennent aveugles? En fait, ils ne vont pas devenir aveugles au sens de la cécité.
Ils cessent de s'appuyer sur leur faux savoir, en quelque sorte.
C'est-à-dire, oui, on pourrait même se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas là une idée selon laquelle les sens sont trompeurs ? On enlèvera même ce qu'il a. Alors ça, c'est... Non, pas tout à fait, parce que dans la parabole des talents que vous évoquez, c'est autour de la peur que ça s'articule, justement la peur de la rétribution. Comme on a peur de, du jugement que, l'autre, que le maître va porter sur mon éventuelle perte, je préfère la cacher, et du coup, il ne se passe rien. Et c'est ce qu'il y a de pire. Vaut mieux investir, quitte à perdre, plutôt que de maintenir les choses en l'état. Parce qu'en fait, ça tue sinon. Mais ici, c'est l'idée selon laquelle il y a une pédagogie qui va consister à faire de ces pharisiens des mendiants. C'est-à-dire que, perdant la vue, une vue même d'ordre symbolique, ils vont avoir besoin d'un autre qu'eux-mêmes. Et c'est quand il y a une relation avec l'autre qu'il y a quelque chose de divin qui se joue véritablement. C'est ça, l'esprit. C'est la capacité de relation que nous avons avec l'autre. Et donc, le fait de devenir aveugle fait d'abord que l'essence cesse de faire illusion et qu'on ne peut plus s'en tenir qu'à soi-même, sauf à se prendre tous les murs. Mais quelqu'un, un principe de réalité, s'imposera à nous. Et devenir un pauvre en esprit, c'est-à-dire l'humble, et qui se sait avoir, enfin qui est sachant avoir besoin de l'autre. Oui. La prière de repentance dans les cultes, c'est une prière d'humilité. C'est le fait que nous savons que tout ne dépend pas de nous. Ou plutôt, c'est le moment où nous reconnaissons que tout ne dépend pas de nous, alors que nous aimerions que tout dépende de nous. Donc on se sépare un peu de l'orgueil, mais on devient aussi comme un mendiant qui est effectivement chercheur, en quête, mais qui du coup est disponible pour recevoir. Parce que le problème de l'homme riche avec Lazare, c'est qu'il pense n'avoir besoin de personne, alors que Dieu se tient à sa porte. Il pense qu'il a tout chez lui, alors qu'en fait, le salut se joue au seuil de sa porte, mais quand même à l'extérieur, enfin de l'autre côté, quoi. Oui. C'est pas très loin, mais c'est un peu hors de soi. Et comme vous le disiez, maintenant il existe, c'est-à-dire qu'il est hors de lui. Il a été envoyé, donc il a fait un trajet. Il est allé plus loin que là où il était. Il y a de l'altérité dans sa vie. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit? Je pense que j'avais dû écrire une phrase pour que ça fasse un peu final de cette étude biblique. Au sujet des pharisiens, leur aveuglement persistant manifeste leur suffisance, leur prétention à voir, alors qu'ils refusent de voir l'action salvatrice du Christ. Et leur prétention à savoir qu'il est fait se poser en juge et à condamner comme pécheur le guéri et Jésus lui-même. Donc, ce que Jésus dénonce comme péché, ce n'est pas le fait de faire des transgressions à la Torah ou autre, c'est le fait d'être hermétique à la lumière. Dans l'évangile de Marc, c'est ce qu'on appelle le péché contre l'esprit. Le péché contre l'esprit dont on dit qu'il est le seul à ne pas être pardonné. C'est un peu bizarre. Mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on s'inflige cette punition à jamais. Parce que qui dit se fermer à l'esprit, dit se fermer à l'autre. Et ben donc, on s'enferme dans sa cécité, son aveuglement, sa surdité, etc. On se referme sur soi. On refuse l'autre. Parce qu'on imagine qu'on est suffisant. Et donc voilà.